Bonjour, donc on ouvre la fin d'ailleurs du processus de la deuxième édition, la première était en 2013, du prix Premier roman jeunesse organisé par Gallimard avec le partenariat de Télérama que je représente et de RTL. Donc en fait, à côté de moi, je le dis tout de suite parce que dans le planning qu'on s'était fait, on annonçait un peu plus tard le prix, mais je crois que là... on peut l'annoncer tout de suite. De toute façon, maintenant, tout le monde le sait. Donc, à côté de moi, Lucie Pierra-Pageot, qui est la lauréate de 2016 de ce concours et qu'on peut applaudir. Merci. Alors, tout à l'heure, on lui donnera la parole pour qu'elle puisse remercier ses parents, ses cousins et tout ça, et le maire d'Auxerre et tout ça. Et puis, à côté d'elle, alors Christelle Dabos, qui est la lauréate 2013, que vous connaissez sans doute, que vous avez déjà lu, qui a déjà même publié la suite, le deuxième de La Passe Miroir, qu'on avait aussi beaucoup aimé en 2013 et qui est devenu, et c'est formidable avec ce prix, qui est devenu en fait aujourd'hui un auteur très reconnu, puisque ne serait-ce que par le succès qu'elle a eu, aussi bien public que critique, et je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Alors à côté de Christelle, on a Laure Delattre qui est l'éditrice. Alors c'est l'éditrice de Lucie Pierra-Pageot, mais vous êtes aussi l'éditrice de Christelle. Voilà, éditrice chez Gallimard. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que c'est le travail d'un éditeur et en particulier d'un éditeur jeunesse. À côté de Laure, il y a Tom Lévesque qui est blogueur et qui était avec moi en fait... membre du jury, donc on est les deux seuls à savoir ce qui s'est passé, et on va tout vous dire. Ah oui, il y avait Christelle aussi, pardon. Christelle, je vous vois surtout comme l'écrivain. Et bon. Donc on donnera aussi la parole à Tom tout à l'heure pour savoir justement par rapport à dans la chaîne du livre, le rôle du blogueur, la manière dont il choisit les livres qu'il met en avant, sur quels critères, etc., etc. Et puis alors complètement à l'autre bout, très loin de moi, ma complice pour animer cette rencontre aujourd'hui, Sarah Philippe, qui est libraire chez Mola. Voilà. Alors, Lucie Pierra-Pageot, en fait, a déjà son livre publié. Vous l'avez peut-être vu déjà en bas. Tout à l'heure, j'espère qu'elle va signer des exemplaires. D'ailleurs, je trouve extrêmement réussi. Il y a une très belle couverture. Très belle. La couverture est d'ailleurs bien mieux que le roman. Hein.
Non. Il est très décoratif.
Et puis alors, elle va passer dans une émission de RTL lundi prochain, le 11 avril, entre 9h et 9h30. Une émission qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, Laissez-vous tenter. Et voilà, il y aura une interview de Lucie Pierra-Pageot lundi matin. Et puis elle aura mercredi, la prochaine édition de Télérama, à la fois son portrait dans les pages magazines et la critique de son roman dans le cahier critique de Télérama. Voilà, c'est le début de la gloire, on peut dire ça. Alors, on va peut-être commencer tout de suite par vous, Sarah, parce que, également, on fête à l'occasion de ce prix les 120 ans de la librairie Mola. Donc, il y a 120 ans, vous étiez là, vous avez un souvenir très précis du début de la librairie et vous allez tout nous raconter.
Donc, je vais faire assez bref parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une année particulière pour nous qu'on célèbre en fait par le biais d'événements qui nous font plaisir. Et merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors je rappelle que c'est une rencontre qui va se passer en deux temps. On va d'abord avoir une discussion, un échange autour de ces livres, d'auteurs, d'éditeurs, autour de la publication. Et ensuite un temps de questions sera prévu juste avant les dédicaces. Donc voilà.
C'est tout, vous ne nous en dites pas plus sur les 120 ans. Moi je pensais que vous alliez remonter tout le temps, année après année, pour nous dire tous les faits marquants chaque année.
Ouais, Ce serait très long.
Alors, on va peut-être commencer avec vous, Laure Delattre, parce que, voilà, le concours, il faut bien le dire, on s'en réjouit beaucoup, et nous, à Télérama en particulier, puisqu'on est partenaire, a rencontré un grand succès, en fait. C'est-à-dire qu'après qu'on ait fait des appels à manuscrits, on a reçu beaucoup de manuscrits, comme pour la première édition. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, justement, comment ça s'est passé, combien vous avez reçu de manuscrits, quel était le profil aussi des concurrents, et puis comment ils ont été sélectionnés.
Alors, donc nous, effectivement, on a lancé cette deuxième édition du concours en juin 2015. Les, auteurs pouvaient déposer leurs manuscrits directement sur Internet. Ils avaient jusqu'à la fin du mois de septembre. On a reçu plus de 800 manuscrits, donc ce qui est quand même un très beau chiffre. Et avec une équipe de lecteurs, on en a sélectionné une dizaine. Donc c'était, voilà, c'était vraiment très difficile parce qu'il y avait, il y avait un bon niveau, surtout que... Je pense les gens s'étaient préparés depuis la première édition à ce qu'on refasse un concours, donc avaient des textes à nous présenter. Et à partir de ces 10 manuscrits, toute l'équipe éditoriale en a organisé plusieurs comités de lecture pendant lesquels on a débattu. Et on en a sélectionné 3 qu'on a annoncés au mois de novembre. Et parmi ces 3, il y avait le texte de Lucie. Et à la fin décembre, ça on parlera peut-être du jury tout à l'heure, voilà, un jury s'est réuni pour voter. Parmi les participants, plus de la moitié des textes étaient plutôt du genre fantastique, donc ça c'est assez représentatif de la littérature jeunesse aujourd'hui. Et énormément de femmes, plus de 80% de femmes nous ont envoyé leurs manuscrits. Au niveau de la tranche d'âge, entre 18 et 35 ans, donc des jeunes adultes. voilà ce que je peux dire à propos du concours.
Alors on va peut-être justement effectivement parler du jury. Donc vous nous aviez quand même bien mâché le travail, parce que Tom, je pense que vous avez apprécié, on n'a pas eu à lire les 800 manuscrits. Donc ça, Christelle aussi, on était quand même plutôt content de ça en fait. Hein. On n'en avait que 3 à lire, mais c'est vrai d'ailleurs que ça a été assez rapide entre le moment où on a reçu les manuscrits et le moment où on a dû choisir entre les 3. Donc j'aimerais bien que Tom, vous nous disiez un petit peu, vous, le souvenir que vous gardez de ce jury, et puis comment vous avez, sur quel critères, sur quoi, comment vous avez choisi en fait vous. Alors vous n'êtes pas obligé de dire que vous aviez choisi ou pas le livre de Lucie, ça peut rester secret, c'est comme vous voulez.
Moi j'ai été contacté par Gallimard, c'était un grand honneur et on était 2 blogueurs et déjà j'aimerais dire que c'est plutôt bien d'avoir la reconnaissance des éditeurs, de voir que le travail d'un blogueur est peut-être pas celui d'un journaliste, mais qu'il a son importance aussi, surtout dans la littérature jeunesse. Et le jury, c'était vraiment une très bonne expérience, parce qu'on n'est pas du côté de l'éditeur, mais on est quand même du côté du choix du texte. Et c'est juste le plaisir de lecture. On lit les 3 manuscrits, les 3 étaient très bien, et de toute façon, il faut en choisir un. Moi, personnellement, j'avais quand même ma petite préférence, j'ose le dire. Et j'espère que vous aimerez autant découvrir le livre que nous, on a aimé le découvrir. Et c'était une discussion, et c'était, en tout cas, le jury, c'est toujours très riche, parce que c'est de toute façon une discussion de gens qui aiment des livres et qui en discutent. Et c'est très intéressant d'avoir les points de vue. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. C'était une très belle discussion, je trouve.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord. J'en garde un très bon souvenir aussi. Et moi, j'ai été très frappé quand même par la qualité des 3 manuscrits, et en particulier par celui de Lucie. C'est-à-dire, en fait, pour un premier roman, alors elle va nous dire, bien sûr, elle avait déjà une expérience d'écriture de nouvelles, on va en parler avec elle tout à l'heure. En fait, c'est quand même, pour un premier roman, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais une grande maîtrise, aussi bien dans la construction du récit que dans l'écriture elle-même, la clarté, la fluidité en fait, du style. C'est exactement comme pour le roman de Christelle avant, c'est vraiment des très très bonnes surprises en fait, parce que c'est plutôt, faut bien le voir quand même au départ, quand on a lancé le concours, on en avait parlé avec nos amis de Gallimard, en fait on avait quand même un peu peur, on se disait, et s'il n'y en a aucun de bien, parce que dès le départ on dit, alors il y aura le portrait d'un Télérama et le livre sera édité, il y aura un truc sur RTL, et on se dit, et si dans le tas on n'en trouve pas un présentable, on va faire quoi? Et là en fait, pour l'instant, en tous les cas, avec ces 2 éditions, c'était pas du tout le cas, on avait le choix et on a la preuve, on avait vraiment d'excellents romans.
Et les 2 avaient, je trouve, les 2 lauréats avaient tous les 2 la particularité d'avoir un univers très particulier, très propre à eux-mêmes, qui sortent un peu de plein d'inspirations différentes, mais dans lesquelles on s'immerge avec vraiment une grande force. Et puis, vous l'avez dit, l'écriture et la maîtrise du scénario, tout est très bien fait. Et c'est vrai que pour des premiers romans, c'est inspirant aussi.
Oui, alors vous, Christelle, vous faisiez partie du jury aussi. Et vous, alors justement, vous détestiez le livre de Lucie et vous n'avez pas arrêté d'en dire du mal.
Ça, c'est vicieux.
Mais depuis ce matin.
Oui, c'est la blague récurrente.
C'est ça.
Donc, moi, je crois que ça, c'est le texte par lequel j'ai terminé. J'avais lu les deux autres avant. Et plus j'avançais, plus ça s'est imposé comme une évidence. Moi, chaque nouveau chapitre, je me disais, pour le moment, j'ai rien à redire, je suis à fond dedans. Et juste à la fin, et là, qui suis-je pour jeter la pierre ? Où je me suis dit, mais elle est où la suite ?
Ouais, c'est vrai qu'on attend la suite maintenant.
Je crois que j'ai fait un email alors, parce que je croyais qu'il me manquait la fin, et je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc,
Alors, on va justement donner la parole à Lucie maintenant. On ne va pas trop dire d'éléments biographiques, parce que comme je tiens à ce qu'on vende beaucoup de numéros de Télérama mercredi, on va garder ça pour l'instant extrêmement discret. On dira juste qu'elle est professeure documentaliste dans Lyon, qu'elle est née à Nevers, qu'elle a habité donc la campagne nivernaise quand elle était petite. Vous verrez, c'est formidable dans l'article de Télérama, toute cette histoire, il faut vraiment le lire. Et en fait, Lucie et l'écriture, c'est quand même... Lucie et la lecture, d'abord. Et Lucie et l'écriture, c'est quand même une vieille histoire, enfin, si on peut dire, parce qu'elle n'a pas encore 30 ans. Alors, on va quand même là centrer l'entretien sur ce livre-là, précisément. D'abord, on va dire une chose. Vous vous étiez présenté, avec un autre roman, bien entendu, à la première édition. Et vous n'aviez pas été sélectionné.
Oui, donc j'avais écrit pour la première édition un roman tout à fait différent. J'étais enceinte de 2 mois et j'étais malade comme un chien et j'avais pas grand chose d'autre à faire que d'écrire, donc ça tombait plutôt bien. J'étais enfermée dans ma chambre et j'avais écrit pour la première édition. Et donc il n'avait pas été retenu, mais j'avais eu un petit retour critique de la part de l'équipe de Gallimard qui m'avait dit que c'était plutôt bien. Enfin, vous aviez souligné les points positifs et négatifs. Et donc, ça avait été le premier contact avec le concours.
Voilà, et donc vous aviez en fait déjà, vous aviez donc envoyé un livre à ce concours, et vous aviez déjà, vous m'avez raconté, participé en fait à des concours de nouvelles. Donc en fait, ça fait un petit moment déjà que vous vous exercez à l'écriture et que vous vous confrontez un petit peu après à la lecture d'autres et qui sont éventuellement des éditeurs ou en tous les cas des jurys.
Oui, donc ça fait effectivement longtemps que j'écris, puisque j'ai dû commencer les concours de nouvelles au collège, donc de mon niveau, hein, évidemment. Et puis, comme ça marchait plutôt bien, il m'est arrivé de décrocher un ou deux petits prix, j'étais contente, donc je continuais. Et j'aime bien les concours, parce que c'est intéressant d'avoir un thème, c'est intéressant d'avoir une date butoir, ça oblige à travailler un peu plus vite. Et donc, je pense que c'est en fouillant sur Internet pour trouver des concours ou des appels à texte que j'étais tombée sur l'annonce du premier roman, du concours du premier roman.
Voilà, et vous avez bien fait de vous obstiner.
Et j'ai bien fait.
Alors, d'une manière générale, vos goûts vont plutôt, là en l'occurrence avec les mystères de l'Arispem, on y est en plein, mais plutôt vers la littérature de l'imaginaire. Et les auteurs que vous aimez particulièrement, ceux que vous m'avez cités, c'est plutôt des auteurs de l'imaginaire.
Oui, j'ai l'impression d'en revenir toujours un peu à ça. La littérature de l'imaginaire, je trouve que c'est toujours imaginatif, c'est enfin un pléonasme, mais voilà, on est toujours dépaysé, on est toujours surpris, plus peut-être que la littérature dite blanche. Donc c'est vrai que mes premières amours allaient plutôt vers le fantastique, la fantasy. Après, c'est pas les seuls livres que j'aime. Je peux lire un petit peu de tout, mais c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour cela.
Voilà, même si vous avez une bonne connaissance de la littérature, vous êtes licencié en lettres modernes, parce que professeur documentaliste, en fait, vous avez d'abord une licence de lettres et ensuite une spécialisation un CAPES, voilà, de documentaliste. Alors, venons-en au livre qui paraît aujourd'hui, Les Mystères de l'Arispem. Alors, Les Mystères de l'Arispem, au départ, on peut se dire, oh là là, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Arispem, c'est Paris en Louchébem. Alors, comment est-ce qu'une idée comme celle-là vous est arrivée ?
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà dire ce que c'est que le Louchébem ?
Ah bah peut-être. Vous pourriez dire bonjour à tous en Louchébem,
oui,
par exemple.
Oui, vous m'avez tellement taquiné depuis ce matin, Michel, que je serais tentée de vous laisser faire.
Oui, parce qu'en fait, j'avais proposé, mais elle n'a pas voulu malheureusement, j'avais proposé à Lucie qu'on fasse toute la rencontre en Louchébem. Ça aurait été bien, non ? Et puis elle n'a pas voulu. Donc,
bah non. Donc si je devais dire bonjour à tous en Louchébem, ça donnerait quelque chose comme Longjourbem à Loutsem. Voilà. Donc en fait, le Louchébem, c'est l'argot des bouchers qui était utilisé au 19e siècle, par exemple, dans les abattoirs de la Villette à Paris. Et c'est un système d'argot qui repose sur des échanges de lettres. Donc on prend la première lettre du mot, on la rejette à la fin du mot, on met un L à la place et on ajoute un suffixe de son choix, bem, par exemple. Donc Paris, en Louchébem, ça donne la RISPEM.
Voilà. Et comment est-ce que vous avez été amenée à vous intéresser au Louchébem? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même au 19e siècle, vous étiez toute petite, donc vous n'en avez pas entendu parler. Donc comment est-ce que vous avez pu...
Parce que tout simplement, mon mari est boucher. Et un jour, il est rentré du travail en me disant « Eh, il existe un argot des bouchers ». Et je me suis dit « Waouh, c'est génial, ça ferait une bonne histoire ». Donc de toute évidence... Ça a fait plutôt une bonne histoire.
Voilà. Et l'histoire est venue assez vite, cette idée de se reporter donc dans un Paris du 19e siècle. En fait, dans votre roman, on est en 1899, donc l'extrême fin du 19e siècle. Et vous imaginez en fait que la Commune, au lieu d'être réprimée dans le sang, a vaincu contre les Versaillais grâce à la ruse et à la bravoure en particulier de Garçon Boucher. Et donc on est quelques années plus tard dans un Paris cité-État indépendante. Et alors dites-nous un petit peu, juste pour nous donner envie, ce qui se passe dans ce décor-là.
Oui, donc on se situe donc à la RISPEM, et la RISPEM, donc c'est un roman uchronique, donc on a modifié une partie de l'histoire et on imagine ce qui aurait pu se passer à peu près. Donc du coup, la RISPEM est devenue une cité-État indépendante, donc elle n'est plus rattachée à la France, et donc le gouvernement est, comme vous avez bien dit dans le résumé, très populiste, donc les riches, les aristocrates, les bourgeois ont tous été flanqués à la porte. Et du coup, on ne jure que par l'égalité, tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle citoyen, citoyenne. Et du coup, donc il y a trois personnages plus ou moins principaux, et ils vont devoir se retrouver à lutter contre les méchants. Et les méchants, c'est évidemment ceux qui ont été exilés 30 ans plus tôt, donc après la Commune, et qui ne sont pas contents.
Et en plus, ils ont des pouvoirs quand même très spéciaux qui vont leur donner quand même beaucoup, beaucoup de puissance.
Voilà. Et en plus, donc... J'ai ajouté une petite touche de fantastique parce que j'ai du mal à m'en empêcher. Donc en plus, les méchants reviennent armés d'un pouvoir, un pouvoir qui a trait au sang. Voilà.
Et c'est très très réussi parce qu'en fait, ça va très vite. En fait, il y a un sens de démarrage dès le démarrage du roman d'abord. On est tout de suite happé par l'histoire. Et ensuite, au démarrage de chaque chapitre, vous avez une écriture comme ça, une espèce de rapidité pour mettre les choses en place. Un sens des dialogues, une écriture très claire qui fonctionne très bien pour emporter en fait votre histoire. Alors, il y a une chose aussi sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est les personnages. Vous avez dit il y a trois personnages, mais j'imagine que c'est pas par hasard quand même que parmi ces trois personnages il y a en particulier deux filles et deux filles très très volontaires et très combatives. Il y a un petit côté un peu féministe, j'ai trouvé quand même dans votre livre.
Oui, c'est vrai que c'était aussi une période où j'avais lu pas mal d'articles sur la question de la représentation du genre dans les médias et où on se rendait compte que, évidemment, il y a plus souvent de héros garçons ou que la part belle est faite plutôt au sexe masculin. Et donc, du coup, j'aime bien de toute façon les héroïnes qui ont une forte personnalité. Hein, Christelle ? Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais envie de mettre en scène des filles avec du tempérament. Voilà. Donc, les deux sur trois, Carmine et Liberté, sont effectivement des filles avec chacun leur personnalité, mais qui sont des filles...
Carmine étant elle-même boucher, donc elle fait partie de la caste honorée dans cette cité-État. Alors juste pour finir, il y a évidemment dans le titre un clin d'œil à Eugène Sue. Donc d'une certaine manière quand même un rapport au feuilleton. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans votre roman, puis il va y avoir une suite. Ça je crois qu'on peut le dire, puisque vous êtes en train de l'écrire. Et d'ailleurs nous on l'attend et vous avez intérêt à faire vite.
J'ai bien compris.
Donc il y a quelque chose, il y a une référence au feuilleton. Enfin vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, mais à mon sens assez évidente. Et d'autre part il y a Jules Verne. Et Jules Verne est même un des personnages... du livre. Ça, ce sont des auteurs qui vous sont chers, qui vous ont inspiré ou...
Alors, c'est vrai que j'ai piqué sans vergogne le titre à Eugène Sue, puisqu'il avait écrit un feuilleton Les Mystères de Paris. Donc, je me suis permis, avec son autorisation, bien sûr, de récupérer son titre en
C'est plus
en
prudent.
Non, bien sûr. Voilà. Et Jules Verne, donc, j'aime beaucoup l'imaginaire de l'auteur, ce petit côté, effectivement, steampunk, un peu rétro-futuriste, avec tout ce qui est machines, etc. Donc, comme la période correspondait bien, ça me semblait tout à fait logique de les utiliser. Ça allait dans le sens de ce que je voulais. Donc, c'était l'occasion de rendre hommage un écrivain que j'aime bien. Quant à Eugène Sue, j'avoue, j'ai pas lu en entier Les Mystères de l'Arispem. De Paris, pardon. Voilà, ça y est. Voilà, c'est plutôt l'atmosphère et puis effectivement ce côté feuilleton où ça va vite, les actions s'enchaînent rapidement et où il y a pas mal de personnages qui circulent.
Très bien. Et vous êtes d'accord pour nous dire ce qui se passe dans le tome 2 et comment ça se finit et tout ça, ou on attend l'année prochaine ?
Naturellement, je vais complètement vous spoiler le tome 2, et comme ça personne n'achètera et je me ferai taper sur les doigts par l'heure.
Alors maintenant, on va parler avec Christelle Dabos, et c'est vous, Sarah, qui allez interroger Christelle.
Prête. Bon, après, je pense qu'on ne vous présente plus, hein, Christelle Dabos. Donc vous, la série La Passe-Miroir va être une tétralogie, donc en 4 volumes.
En 4 tomes.
Oui. Vous êtes installée donc, en Belgique, chez nos voisins. Et j'ai entendu dire que l'écriture était venue à vous, non pas quand vous étiez toute petite, mais plutôt sur les bancs de l'université.
Oui, oui, moi, c'était pas, voilà, je ne fais pas partie de l'écrivain qui s'est découvert une vocation toute jeune. Moi, c'est vraiment à la faculté, pendant les cours, même pas à côté. C'était
d'accord.
Vraiment un cours particulièrement ennuyeux. Je pense que ça a dû être le gros déclic qui a fait tout commencer. Où vraiment, j'arrivais pas. J'avais complètement décroché du cours et j'arrive plus à suivre. Et c'est ma camarade à côté de moi qui, je ne sais pas pourquoi, elle m'a tout de suite vue comme une auteure. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle a été tirée ça, parce que je n'écrivais pas à ce moment-là. Mais elle m'a écrit un titre d'une histoire. Elle m'a dit, écris à partir de là une histoire. Et donc, pendant tout le cours, j'ai écrit une petite histoire, juste pour rigoler, c'était vraiment un petit truc délire, mais c'est comme ça que ça a commencé.
Et c'était déjà autour d'un univers merveilleux, ou c'était plutôt réaliste ?
Alors c'était, moi je pense que j'ai une imagination qui fait que la réalité est trop exiguë pour moi, donc je pense que c'est toujours parti dans des trucs imaginaires, mais à cette époque-là c'était que de l'humoristique, c'était de l'absurde, c'était vraiment pour rigoler en fait. Enfin, c'était pour faire rire cette amie parce qu'elle riait jamais, elle souriait pas beaucoup. Et j'avais envie de un peu la conquérir à travers mes histoires.
D'accord. Et c'est d'ailleurs via une plateforme de publication qui s'appelle Plume d'Argent et qui en fait est une communauté d'auteurs et de lecteurs qui est vraiment axée sur l'échange et le partage que vous avez commencé à vous rendre compte en fait que l'écriture était faite pour vous. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté en fait
Donc effectivement, cette communauté, elle est entrée plus tardivement dans ma vie. C'était un moment qui était difficile pour moi. Je venais d'avoir une grosse maladie, une très grosse opération. J'étais isolée, confinée à la maison, je ne sortais pas du tout. Ma seule échappée, c'était Internet. Et je me retrouvais à ce moment-là à écrire un petit peu toute seule devant... J'étais seule devant mon texte. Et je suis tombée vraiment par hasard. Je cherchais évidemment quelque chose sur Internet. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais échanger? Mais sur cette communauté-là, qui n'était vraiment pas développée, il n'y avait pas beaucoup de membres à ce moment-là, je suis un peu tombée par hasard, par ricochet. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose dans cette communauté où les auteurs se lisent les uns les autres, mm-hmm. s'intéressent, font des commentaires constructifs. Et avec une bonne humeur ambiante qui a fait que je me suis tout de suite reconnue dedans. Et voilà, c'est comme ça que La Passe-Miroir a fait ses débuts sur... dans le cadre de cette communauté-là, et ça m'a énormément apporté, autant au niveau des commentaires que j'ai reçus, qui étaient très très enthousiastes, et en même temps, souvent j'avais des retours aussi constructifs, où on me pointait des choses que je pouvais améliorer dans l'écriture, et aussi en lisant les textes des autres auteurs, qui pour moi étaient vraiment d'une qualité remarquable. Et là, il y a un effet d'émulation, où je me suis dit, je veux écrire comme tel, ou comme un tel, et ça m'a aussi influencé dans ce sens-là.
Et alors, j'ai cru comprendre que votre entourage, et notamment votre compagnon, vous a poussé à envoyer votre manuscrit à Gallimard.
Alors, poussé, je pense que c'est vraiment le terme.
Et on le remercie, hein, parce qu'on n'aurait peut-être pas fait la connaissance d'Ophélie et Thorne. Est-ce que vous pensez que pour écrire, il faut savoir s'entourer ?
Oui, là, vraiment, je pense, effectivement. Pour moi, en tout cas, ça a été décisif d'avoir été bien entourée. C'est ce qui a fait que... j'ai pu me faire une famille de plumes. On n'est pas forcément prophète en son pays. J'ai une famille que j'adore, mais c'est pas eux qui vont forcément vraiment comprendre ce que j'écris ou rentrer dedans. Ils essayent, ils font des efforts. Mais parfois c'est aussi un problème de génération. Mais voilà, c'est pas forcément les parents qui vont être les meilleurs lecteurs. Et voilà, c'est effectivement important de trouver un entourage. Là, à ce niveau-là, pour moi, Internet a été très important. C'est ce qui m'a permis vraiment de trouver ma communauté de lecteurs et d'auteurs, donc de m'inscrire. Et au niveau, c'est vrai, de mon compagnon en particulier, c'est vraiment... c'est d'autant plus particulier que c'est quelqu'un qui lit énormément de tout, sauf de la jeunesse, qui ne s'intéresse pas aux genres de l'imaginaire. On est vraiment... il a toujours vu que écrire me faisait du bien, en particulier dans la période où j'étais malade ou en pleine convalescence et tout. Il m'a toujours encouragée, il a toujours trouvé ça. Mais voilà, c'était pas son truc à la base. Et je me rappelle encore lorsqu'il y a eu le concours dont on parlait, dont mes amis d'auteurs de plumes d'argent me parlaient en me disant « Mais il y a ce concours, participe !» Et moi, je n'osais pas. Je ne me voyais pas auteur publié. J'avais vraiment la trouille, j'avais le trac. Et c'est mon compagnon qui m'a dit « Mais t'attends que je te mette mon pied au derrière hein. ?»« Fais-le, ton livre, il est prêt, ça ne te coûte rien. Faut le faire, tente-le. » Et je devais être sentie. Voilà, encadré, enfin vraiment de savoir que j'avais cet appui-là à côté de moi, ça a été décisif pour prendre ma décision, parce que c'est une décision qui me faisait peur. Et de savoir qu'il était là à côté de moi, il est toujours là à côté de moi maintenant, pour à chaque fois que j'ai quelque chose, c'est devenu littéralement mon agent littéraire. Voilà, maintenant, il fait toutes les démarches sur Internet, il voit tout ce qui se passe, il est vraiment partie prenante de mon aventure.
Alors, vous l'avez conquis avec votre littérature jeunesse, lui qui n'aime pas le merveilleux et la jeunesse.
J'avais énormément...
Qu'est-ce qu'il en a pensé ?
Beaucoup d'appréhension à ce qu'il lise mon histoire, parce qu'en fait, le personnage de Thorn est très inspiré de mon compagnon. Et je ne lui avais pas caché. J'ai dit, oui, il y a un personnage, m'inspire pas mal de certains. Mais du coup, il était très curieux de me dire, bon, c'est qui ce Thorn dont tout le monde parle? J'ai dit, oui, enfin, t'attends pas. Je me suis inspirée de toi, mais c'est pas forcément toi. Et effectivement, quand il a lu, il a dit, mais il est méchant. Donc... Mais il est rentré dans mon histoire. Je ne sais pas s'il aurait aimé si ça avait été quelqu'un d'autre, mais bon, parce que c'était moi, il est rentré dedans, il l'a apprécié, il m'a vraiment... Voilà. Il a fait cet effort-là.
Peut-être parce que vous avez un peu de talent aussi, ça doit être ça.
Oui, je pense quand même que là, je pense qu'il y a aussi la part d'amour qu'il a joué, parce que ce n'est vraiment pas son domaine.
Et sinon, j'ai lu dans un article assez récemment que l'auteur jeunesse Clémentine Beauvais, elle reprend une très jolie formule de Philippe Pullman qui dit « lire comme un papillon, écrire comme une abeille ». En fait, cette métaphore, elle sous-entend que l'écriture nécessite deux temps. D'abord, celui d'être un bon lecteur pour s'imprimer de ses mécanismes un petit peu, et ensuite de butiner comme une petite abeille, c'est-à-dire récolter un petit peu les influences, les images, les pensées qui viendront ensuite se déposer au fil des pages sans même que l'auteur s'en rende compte.
Ah, c'est une très belle image.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça fonctionne comme ça pour vous?
Je pense que c'est vraiment une image effectivement qui rend hommage. Il y a un temps d'imprégnation où aussi tout ce qu'on voit, soit des expériences vécues ou d'autres œuvres, pas forcément des livres, ça peut être toutes sortes d'œuvres, ça va venir se greffer dans le petit théâtre intérieur qu'on a. Et ça commence à faire partie, et ça vient enrichir notre inconscient, l'imaginaire. Et puis après, ça ressort sous une autre forme, ça se mixe, ça se transforme, et ça ressort au moment de l'écriture.
Et alors vous, quelles sont un petit peu vos influences, vos inspirations, qu'elles soient littéraires ou tout simplement artistiques, cinématographiques?
Voilà, j'ai souvent donc tendance à dire je dois rendre quand même hommage à Harry Potter parce que c'est quand même l'œuvre qui m'a donné le déclic de l'écriture. J'ai écrit des fanfictions à mes débuts aussi, c'est ce qui m'a un petit peu mise en selle dans l'écriture. Philippe Pullman avec La Croisée des Mondes, là, qui m'a ouvert la voie du genre un petit peu steampunk où je ne savais pas qu'on pouvait écrire des univers comme ça. Je me suis dit, mais ça existe. Donc, l'ambiance du monde, ça m'a beaucoup inspirée. Bon, l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je crois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de clins d'œil à Lewis Carroll dans La Passe Miroir. Et dans le domaine, donc pas littéraire, mais plutôt cinématographique, il y a toutes les œuvres des studios Ghibli, Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, donc toutes ces productions-là. Visuellement, ça m'a fait une claque Quand j'écris, j'ai toujours tendance à m'imaginer des décors, des personnages un petit peu dans, avec ce dessin-là.
D'accord. Pardon. Au départ, donc, La Passe Miroir n'était pas censée être publiée. En tout cas, c'est ce que vous aviez dit initialement. Est-ce que le fait d'être publié, ça a changé votre façon de travailler vos textes?
Ah oui, je pense que là, ça a été vraiment décisif. Je pense qu'en fait, ça a permis de graver dans le marbre quelque chose que j'avais tendance. J'aurais pu, à mon avis, toujours retravailler. Et j'aime toujours me trouver cette excuse de « tant que c'est pas parfait, bah, ne jamais tenter l'aventure de l'édition ». Donc voilà, j'étais toujours piégée dans ce cycle des réécritures, de retravailler. Et voilà, l'édition, moi, ça a mis dans le marbre le tome 1. Je ne pouvais plus bouger, même si j'ai envie. Je suis obligée de composer avec. Et voilà, ça... Oui, je pense que voilà, du coup, ça m'a fait sortir de cette spirale dans laquelle j'étais un petit peu entrée, dont je n'arrivais pas à me sortir. Ou à un moment, il faut savoir s'arrêter et se dire, bon, bah, le texte, il n'est peut-être pas parfait, mais il est abouti. Mm-hmm. Et voilà, maintenant, il faut savoir le lâcher dans la nature et l'exposer et passer à autre chose et avancer.
Vous faites plus confiance, quoi, aussi.
Oui. On va dire ça.
On peut peut-être poser d'ailleurs la même question à Lucie. Est-ce que, alors là, votre expérience est beaucoup plus récente, mais est-ce que vous avez, à partir du... Vous savez d'ailleurs, j'imagine, depuis un peu plus de temps, depuis quelques jours ou depuis même quelques semaines que vous êtes la lauréate et vous êtes en train d'écrire le tome 2. Est-ce que pour vous aussi, le fait de savoir que le premier tome allait être édité, que ça y est, vous alliez être en librairie, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de travailler ou pas encore ?
Oui et non, c'est beaucoup plus stressant, puisque comme l'a dit Christelle, c'est gravé dans le marbre, ce qui veut dire que même si on le voudrait, on ne peut pas y retoucher. Et étant donné que les idées me viennent au fur et à mesure et que je n'ai pas de plan très défini, ça m'arrive souvent de faire des retours en arrière dans mon écriture pour changer des choses. Donc là, je suis bien embêtée parce que je ne peux pas. Donc il faut que je compose avec la base fixe que j'ai et que je poursuive pour le tome 2. Donc ça change. Et puis je pense que ce qui changera vraiment plus, ce seront les retours des lecteurs, puisque c'est là où je me rendrai compte peut-être de ce qui est un peu faible, de ce qui est bien, et qui pourra peut-être me donner des pistes après pour travailler plus ou plus telle partie de peut-être le décor, ou peut-être les personnages, ou peut-être, je ne sais pas. Donc je pense que ce sera plutôt dans ce sens-là où ça va peut-être modifier les choses.
Alors on va continuer avec vous parce que la deuxième partie de cette rencontre, on voulait en fait la consacrer au cheminement en fait depuis l'écriture d'un livre jusqu'à sa publication. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est peut-être parmi vous, y a-t-il des gens qui écrivent, qui ont envie d'écrire, qui ont déjà des manuscrits ou qui aimeraient bien en avoir un, etc. Et donc finalement, quels sont les secrets comme ça des auteurs? Quels sont les secrets des éditeurs et des lecteurs et des lecteurs professionnels? Donc on va peut-être commencer justement par vous, parce qu'il y a un petit livre, je l'ai apporté, j'ai oublié de le sortir, j'aurais dû le sortir avant, que je vous recommande, qui est très intéressant. Alors bon, je suis désolé, il est publié chez Flammarion et pas chez Gallimard, mais premièrement, Jean-Baptiste Gendarme, lui, quand il écrit chez Gallimard dans La Blanche, et d'autre part, Flammarion, c'est le même groupe que Gallimard, Madrigal, donc ça va, je pense que c'est possible. Ça s'appelle « Splendeur et misère de l'aspirant écrivain ». C'est paru, je crois, il y a un an, quelque chose comme ça. Et il s'est écrit avec énormément d'humour. C'est très piquant, mais en même temps, c'est plein d'informations. Jean-Baptiste Gendarme est bien placé, parce que lui est auteur, et puis s'occupe de la revue Décapage, que vous connaissez peut-être. Et donc, il connaît bien toutes les coulisses, en fait, de l'édition. Et c'est plein de bons conseils pour ceux qui veulent se faire éditer. Et il y a une première question qui n'est pas forcément évidente et à laquelle on ne pense pas et que je voudrais poser à Christelle et à Lucie. Et bien sûr, Sarah, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Finalement, quand on commence à écrire, qu'on a envie d'écrire, qu'on écrit des nouvelles, qu'on commence à gribouiller des choses, puis même peut-être que ça va plus loin, on commence à écrire un roman et tout, quand est-ce qu'on se dit que peut-être quand même on pourrait être publié? Quand est-ce qu'on envisage le fait d'être publié? Et d'une certaine manière, comment est-ce qu'on sait qu'on a du talent ou pas?
T'es plus aguerri.
Oui. Oui, bah alors dans mon cas, c'est un peu particulier puisque justement, je ne pensais pas être... Je ne me voyais pas comme étant publiable. Bon, là, c'est peut-être dans mon cas un peu particulier parce que j'avais plutôt moi un blocage psychologique qui faisait que j'avais peur de ce que ça pouvait impliquer si je l'étais. Mm-hmm. Mais c'est vrai, à partir de quel moment est-ce qu'on réalise que le texte, bah tiens, il peut... Moi, c'est vrai que je pense qu'à ce niveau-là, c'est la communauté de Plume d'Argent qui a été assez décisive, puisque le simple fait de constituer un lectorat, bah déjà, on dit, tiens, il se passe quelque chose, il y a une rencontre qui se fait. Mm-hmm. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'Internet a été assez instructif quand on voit qu'il y a déjà au moins un phénomène qui se passe, une rencontre qui se crée. On dit, en tout cas, il y a un lectorat. Donc, dans mon cas, ça a été ça. Maintenant, moi, c'est vrai que j'avais ce cas particulier qui faisait que je ne me voyais pas comme un auteur publié. À chaque fois qu'on me disait, bah, pourquoi est-ce que tu ne tentes pas l'édition ? Je dis, non, c'est pas fait pour moi.
Donc, Et vous, Lucie ?
Donc, dans la question, il y avait comment est-ce qu'on sait qu'on a du
talent ? Ben oui, quand, oui.
Quand on arrive à finir quelque chose, je pense que c'est un premier signe que c'est pas si mal, puisque ça veut dire qu'on a réussi à se dépatouiller pour faire quelque chose qui tient, même si c'est imparfait, donc ça me semble être un premier jalon. Mm-hmm. Et après, moi, je sais que pour moi, c'est très subjectif. Quand ça marche pas, ça se voit, c'est comme des engrenages qui tournent mal, ça grince, c'est pas bien articulé, les personnages sonnent faux. Donc, je pense que c'est assez difficile de répondre à la question pour soi-même, et ça dépend aussi de son état d'esprit. Je pense qu'on peut tout à fait écrire quelque chose de potable et avoir l'impression que c'est tout pourri. Mmh. Puisque moi, à la fin, comme je disais plein de fois, pour les dernières relectures des Mystères de Larry Spem, je l'avais tellement lu et relu et relu que je ne voyais plus que les défauts. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette sombre daube ? Ils sont complètement trompés. Tout le monde va voir à quel point le scénario il est tout pourri. Les personnages sont creux, ça va pas du tout, c'est horrible, arrêtez tout. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une grosse part de...
Ouais, c'est vrai que la vision qu'on a de son texte...
Oui, c'est très difficile.
Selon l'état d'esprit qu'on a, ça peut tout changer.
En fait, toutes les deux, quand même, vous aviez entrepris des démarches qui vous permettaient déjà de tester pour avoir un regard extérieur. Alors, bien sûr, on peut tous se montrer son manuscrit à son compagnon ou à sa compagne, son frère ou sa sœur, son père ou sa mère ou je ne sais pas quoi. Mais là, en l'occurrence, vous étiez allés plus loin toutes les deux, puisque vous aviez Plume d'Argent, donc vous vous confrontiez au regard de père. Et vous, Lucie, vous avez quand même, à un moment donné, essayé, puisque vous avez envoyé des nouvelles à des concours. Donc il y avait bien un moment quand même où vous vous êtes dit, bon, là, quand même, peut-être ça mérite. Et puis vous avez tenté le regard d'autrui.
De toute façon, c'est connu que la famille est un juge absolument mauvais pour pouvoir dire si ce qu'on a écrit est bien ou pas, parce qu'ils vont certainement se montrer gentils en disant « c'est bien ma petite fille, c'est très mignon ce que tu as écrit là, mais ce ne sera pas forcément très constructif ». Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir un regard extérieur le plus neutre possible. Donc je pense que les concours de nouvelles, les appels à texte, c'est un très bon moyen de tester un petit peu, savoir où on en est. Donc, si on est content de quelque chose qu'on a produit, je pense que ça vaut le coup d'essayer de le confronter tout de suite. Donc, soit dans une communauté virtuelle comme ça, soit effectivement les concours, c'est plutôt bien. Ça permet de savoir un peu où on en est, tâter le terrain.
Alors, on va revenir à vous, évidemment. De toute façon, chacun peut intervenir quand il veut, mais on va peut-être donner la parole à l'éditeur, à Laure Delattre. Alors, une fois, j'avais fait un entretien pour Télérama avec Thierry Laroche, qui est éditeur également chez Gallimard, avec vous. Et je lui demandais justement qu'est-ce que c'était la qualité principale de l'éditeur, qu'est-ce que c'était un éditeur. Et il avait commencé par me dire c'est l'instinct de chasse. C'est-à-dire, c'est la recherche permanente du nouvel auteur, du bon manuscrit. Est-ce que vous adhérez à ça ? Et puis après, alors plus concrètement, évidemment, chez Gallimard, la maison est particulièrement repérée. Vous devez recevoir, je ne sais pas combien, mais vous allez nous le dire, beaucoup de manuscrits. Comment ça se passe concrètement quand un manuscrit arrive au courrier chez Gallimard Jeunesse ?
Alors, c'est vrai que l'instinct de chasse, moi, j'aime plutôt l'image du chercheur d'or, parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de manuscrits, un peu moins de 5000 par an, donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et dans cette masse de manuscrits, il y a des petites pépites comme ça qui nous arrivent parfois. Et là, quand on a organisé les concours, c'était assez exceptionnel pour nous, parce que la première fois, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre et on n'aurait pas pu espérer trouver un texte comme La Passe-Miroir. Et on était tellement fiers et contents de ce succès qu'on s'est dit, allez, pourquoi pas retenter l'expérience. Et là, une deuxième pépite nous est arrivée entre les mains. Donc c'est vrai que ce concours, c'est encore autre chose, une autre stimulation pour nous que les manuscrits qui nous arrivent quotidiennement par la poste. Il y a un challenge, il y a une excitation Pour les auteurs, effectivement, c'est cette date butoir, mais pour nous aussi, on a un temps quand même assez restreint pour choisir les textes, pour les lire, etc. Donc, le travail de chercheur d'or, il est concentré par une période donnée et par un certain nombre de manuscrits. Mais sinon, par ailleurs, le cheminement un peu naturel des manuscrits... Nous, il y a une personne qui fait le tri en interne, qui reçoit, elle, tous les textes. Et ensuite, on a une équipe de 3 lecteurs qui travaillent chez eux. Et tous les 2 mois à peu près, on organise un comité de lecture. Donc, en fait, on est une dizaine d'éditeurs à s'occuper des romans. On lit les textes, on se réunit, on fait une réunion et on débat. On a lu au préalable, bien sûr, quelques textes et on en débat, on discute. Parfois, on est d'accord. Parfois pas du tout, ça se crêpe le chignon, mais on est ravis de publier des textes, quelques textes par an comme ça, qui nous sont arrivés spontanément par la poste. C'est quand même l'essence de notre travail.
Est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires, pardon, des textes qui vous arrivent, je sais pas, bourrés de fautes d'orthographe ou... Est-ce qu'il faut qu'il y ait une forme particulière, en tout cas, pour que ce soit...
Alors, c'est sûr que quand on reçoit un manuscrit de 600 pages écrit en corset, sans marge, c'est forcément, ça part pas très bien, quoi. Mais non, nous, on a un éditeur qui publie quand même toutes sortes de livres. Donc, on n'a pas... Il y a souvent des gens qui nous appellent et qui nous demandent « Mais est-ce que vous avez une thématique ?» Ou « Est-ce qu'en ce moment, le genre qui marche bien, c'est la dystopie. Donc, est-ce qu'il faut absolument écrire une dystopie ?» Nous, au contraire, on est ouvert à tous les genres. On publie des livres pour toutes les tranches d'âge. Donc, même si c'est un texte, un album qui fait 3 pages, ça nous intéresse. Et il n'y a rien de rédhibitoire. Faute d'orthographe, de toute façon, nous, on est là derrière pour corriger. Donc, non, on est... toute création est bienvenue. Et voilà.
D'accord.
Mais alors, finalement, vous cherchez... Qu'est-ce que vous cherchez essentiellement Vous cherchez quoi? Vous cherchez une singularité? Vous cherchez une voix? Vous cherchez une personnalité? Vous cherchez... qu'est-ce que vous cherchez principalement?
Un peu tout ça. Alors, c'est vrai que nous, on marche... comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment de... On a beaucoup de collections, donc on publie tous les genres pour tous les âges. Donc, on marche vraiment au coup de cœur, en fait. Et c'est vrai que ces comités de lecture, ils sont aussi parfois assez intenses, parce que chaque éditeur a sa personnalité, ses goûts, et donc on a tous des coups de cœur qui ne sont pas forcément les mêmes, mais on reconnaît un vrai talent quand on est tous d'accord et que voilà, par exemple, pour les deux textes, les deux auteurs ici présents, tout le monde a adoré, tout le monde a adhéré à l'univers. Après, effectivement, on est une maison d'édition assez littéraire, donc on cherche une langue, une écriture, mais ça peut être aussi la richesse d'un imaginaire ou parfois une sensibilité quand c'est un texte plus intimiste. C'est assez, assez variable. Mais voilà. C'est vrai que le coup de cœur est très important pour nous.
En tous les cas, ce qu'il faut dire, parce qu'il y a quand même, on entend souvent les gens dire ça, il y a réellement plein d'auteurs encore aujourd'hui qui envoient leurs manuscrits, par Internet maintenant plutôt que par la poste, mais aussi par la poste encore, et qui sont publiés, et qui, c'est pas la peine, pas forcément d'avoir des relations, d'être recommandé, d'être le fils d'eux, etc. Il y a réellement beaucoup de romans aujourd'hui, dans toutes les, d'ailleurs pas seulement en jeunesse, enfin ça je crois qu'il faut le dire, parce que souvent moi j'entends ça, les gens disent oui, oh, de toute façon c'est bien, il n'y a aucune chance si on envoie par la poste.
Et beaucoup d'auteurs le croient, et d'auteurs déçus souvent nous appellent en disant « De toute façon, je ne connaissais personne, je n'aurais jamais pu être publié », alors que non, effectivement, nous, on est attentifs à chacun. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous, et je pense pour beaucoup d'autres éditeurs, effectivement.
Alors après, une fois que vous avez décidé de publier un roman, et là, on va faire aussi intervenir les auteurs, c'est que il y a un travail qui va se faire entre l'auteur et l'éditeur. D'ailleurs, c'est là aussi, bien entendu, le premier travail de l'éditeur, c'est de choisir, d'une maison d'édition, c'est de choisir d'éditer tel ou tel livre ou de ne pas éditer tel ou tel livre, parce que il peut être bon pour une maison et pas pour l'autre, parce que chaque maison a sa personnalité, ce qui veut dire que quand on envoie un manuscrit, il faut choisir avec soin la maison à laquelle, pas arroser toutes les maisons, mais se dire mon roman, il rentre plutôt dans l'esprit de telle ou telle maison. Alors, Le manuscrit est retenu, le comité de lecture dit oui, on édite ça, mais bien entendu, dans la plupart des cas, c'est très très rare qu'on publie comme ça exactement ce qui est envoyé. Il y a un travail d'édition qui est fait, un travail sur le texte en collaboration entre l'éditeur et l'auteur. Alors j'aimerais bien, peut-être que vous nous racontiez déjà, Christelle et Lucie, votre expérience. Votre éditrice est Laure Delattre, mais vous pouvez quand même dire tout le mal que vous pensez d'elle. Comment ça s'est passé concrètement? Comment vous avez vécu ce travail avec l'éditeur?
En tout cas, sur le premier tome, il y a eu très très peu d'interventions. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment respecté le texte voilà, tel qu'il était. Je crois que c'était juste le plus gros changement. Ça a dû être de changer des noms de personnages qui n'étaient pas à connotation forcément très nordique. Enfin, c'était des noms qui m'avaient bien plu, mais qui ne collaient peut-être pas tellement à l'univers. Et rajouter un petit épilogue à la fin, parce que le final était un petit peu abrupt. Donc le premier tome, en fait, pour ainsi dire, voilà, c'est presque pas de retouches. Le deuxième a demandé plus de travail. Et là, moi, ça m'a obligée à travailler, en fait, une tendance que j'ai, c'est ma tendance Bing Bang, toujours partir dans des développements. Je suis très expansive en écriture. J'ai un peu tendance à partir un peu dans tous les sens. Et là, il a fallu un petit peu me canaliser pour resserrer l'intrigue et un petit peu mieux dessiner le fil rouge. C'est ma principale difficulté en écriture. Et le tome 2, ça a été vraiment un peu l'occasion de travailler un petit peu plus ce point-là, où là, du coup, on a dû un peu couper dans le texte pour retirer le gras et garder le muscle. Voilà.
Et vous, Lucie?
J'ai eu le même problème de fin que Christelle. Il faut croire que Laure est très à cheval sur les fins abruptes. Une explication, je ne sais pas. Moi, c'est parce qu'il fallait le rendre donc à la date prévue pour la fin du concours. Donc, j'ai dû me dépêcher. Et je me suis dit, rusons, faisons un bon gros cliffhanger à la fin. Avec un peu de chance, ils auront envie de savoir ce qui se passe et ils seront... Voilà, donc ça a marché. Voilà, donc conseil aux apprentis écrivains, faites des gros cliffhangers, ça marche du tonnerre. Donc du coup, évidemment, c'était quand même un peu abrupt. Donc on a réécrit la fin, essayé de faire quelque chose de un peu plus doux comme descente, et puis faire une petite ouverture sur le tome 2 aussi. Donc là aussi, on a bien cherché, on a bien creusé. J'ai fini par trouver une solution à l'arrache un matin dans le train, et c'était ce qui convenait, donc c'est bon, c'était fini. Voilà. Donc, mais sinon, pour le travail sur le reste du texte, c'était plus des détails au niveau des tournures, et puis aussi ajouter des descriptions, parce que j'ai tendance à écrire peut-être un peu vite, dans l'esprit feuilleton peut-être, et du coup, je décris pas beaucoup, ni les personnages, ni les lieux, donc là, il fallait remettre une petite couche pour que ça soit un peu plus visuel, peut-être. Donc, du coup, j'ai rajouté aussi une petite pincée de description par-ci, par-là, pour que ça soit plus vivant.
Oui, donc, en fait, Laure Delattre, ça demande aussi de la psychologie, ce métier. C'est-à-dire qu'à la fois, bien entendu, c'est un travail sur un texte, donc c'est un travail essentiellement littéraire, mais j'imagine qu'il faut savoir... Parce qu'un auteur, il apporte son livre quand même, ça fait des semaines, même des mois, voire pour certains des années qu'il porte ce texte. C'est extrêmement personnel, ils sont très engagés forcément dedans. Donc j'imagine que ça ne va pas être forcément dans tous les cas si facile de les amener à changer des choses, etc.
Non, ça c'est sûr, ça dépend vraiment de chacun. Alors là, pour le coup, c'était... J'ai eu beaucoup de chance avec Christelle et avec Lucie parce que c'est des personnes très ouvertes et il y avait vraiment une discussion. Je pouvais leur faire un retour assez franc sans avoir peur de les blesser. Mais oui, je pense que ce qui est très important, en fait, à la base, c'est d'avoir un rapport de confiance, c'est de comprendre qu'en fait, on veut chacun le meilleur pour le livre. L'éditeur apporte vraiment un regard extérieur, il a du recul autant que possible sur l'histoire, ce que parfois l'auteur n'a pas, puisque lui, il est vraiment, surtout là, dans le cadre d'un concours, où il faut écrire très vite, envoyer son texte sans forcément avoir relu, avoir eu le temps de laisser reposer. Le rôle de l'éditeur, c'est vraiment d'être la petite voix dans la tête qui pointe les petites choses qui ne vont pas, mais tout en ayant conscience, bien sûr, de toutes les qualités du roman par ailleurs, quoi. Mais, euh, Mais oui, et là, en l'occurrence, on a vraiment travaillé dans un premier temps avec Lucie, en tout cas, sur la forme. Donc, c'était plus des directions. Je n'ai pas pointé du doigt particulièrement des choses, mais c'était plus, effectivement, la fin, il faudrait revoir. On a aussi ajouté les personnages. Et puis, on a aussi été un petit peu loin dans l'histoire parce qu'on restait un petit peu sur notre fin. On voulait qu'il se passe un petit peu plus de choses dans ce tome d'introduction. Et effectivement, après, on revient sur les choses plus de détails, de style. Mais voilà, c'est vraiment un rapport de confiance qui doit s'établir et que et l'éditeur et l'auteur puissent se parler sans tabou, avec un peu de franchise.
C'est important. Ce qui n'est pas tellement l'image d'Épinal qu'on a de l'éditeur requin commercial qui pinaille sur le moindre mot.
Oui, il y a des belles histoires d'ailleurs dans l'histoire littéraire de relations entre des auteurs et leur éditeur sur des années où c'est des relations extrêmement intimes au bout d'un moment et très fructueuses. Il y a plein de grands éditeurs comme ça qui ont eu des histoires avec des auteurs. C'est assez beau d'ailleurs, je trouve. Alors après, le livre est publié, il arrive en librairie. Et il arrive aussi chez Tom Lévesque, par exemple, hein, ou Abderrama. Il en arrive beaucoup parce qu'il se publie beaucoup de choses. Donc, comment ça se passe pour vous, Tom ? D'abord, peut-être, c'est intéressant que vous nous disiez un petit peu comment vous concevez, qu'est-ce que vous souhaitez faire, en fait, de votre travail en particulier, qui, pour moi, d'ailleurs, est un travail qui est extrêmement proche du travail de la critique, hein, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de livres aujourd'hui qui sont publiés. Moi, j'en reçois à Télérama tous les jours. Je parle que pour la jeunesse, là, hein, tous les jours, plusieurs. Donc, à la fin du mois, ça fait vraiment beaucoup. Donc, comment vous travaillez, comment vous sélectionnez les livres, quels sont vos critères, qu'est-ce que vous recherchez, en fait, exactement, qu'est-ce que vous cherchez à passer, en fait, à vos propres lecteurs ou lecteurs de votre blog?
C'est vaste. Déjà, je pense que vous parliez du fait que vous qu'on est assez proche donc d'un journaliste. Je pense que ce qui est génial sur un blog, c'est qu'on a quand même une immense liberté. Et puis c'est une histoire d'abord de se faire plaisir, et c'est une histoire de partage. Donc de toute façon, on va continuer à lire ce qu'on aime. Et je pense que finalement de continuer, on lit et puis presque toujours on critique derrière. Donc ça va aiguiser le regard. Et c'est très intéressant, mais moi, je ne sais pas, je cherche des livres qui vont me transporter, des coups de cœur, comme tout lecteur, sauf que la différence, c'est que je vais en parler après. Je vais l'écrire, je vais essayer de, si possible, de le faire vendre, parce que c'est aussi quelque chose qui est bien d'arriver à conseiller, mais tout le monde le fait, finalement. Après, moi, je sais que sur mon blog, j'essaye toujours d'avoir un regard sur les auteurs français, défendre la littérature jeunesse qui est très fructueuse en France et qui n'est pas toujours le mieux défendue. Il y a peu de médias par Télérama, France Info, RTL, enfin quelques médias qui en parlent, et les blogs, surtout en littérature jeunesse, apportent ce regard qui peut-être manque dans la chaîne du livre. Et donc particulièrement sur la littérature française, moi, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs que je découvre tous les jours et que je mets dans un coin de mon appartement, et je me dis, lui, il faut vraiment que je le dise un jour, et puis il y a des perles qui ressortent, et c'est fascinant, c'est un travail de lecteur, mais aussi c'est génial, oui. C'est tout un amour.
Donc en fait, vous avez quand même un travail qui est proche de celui du critique, en fait, quand même.
Bah, c'est vrai qu'on a aussi, donc quand on a des liens avec les maisons d'édition, il y a des choses qu'on reçoit, mais ce qui est différent peut-être, ça va être que vous ne faites pas forcément le choix, on vous en envoie. Nous, au début, on va peut-être avoir un choix qui va nous... ça dépend des relations, par exemple avec Gallimard, avec On lit plus fort. C'est le blog On lit plus fort, c'est le blog de Gallimard Jeunesse, qui a des chroniqueurs On lit plus fort, donc ils reçoivent les manuscrits en avance, et ensuite ils les lisent et les chroniquent. Donc là, c'est un travail différent, parce qu'on ne les choisit pas, et ensuite on les lit. Mais ce qui est proche du critique, c'est d'avoir donc la critique à la fin, mais Je sais pas, je trouve que c'est deux côtés intéressants. Peut-être que le côté blog va plus s'adresser directement au lecteur, là où, enfin, par exemple, Télérama va plus s'adresser aux parents, aux libraires, aux documentalistes, etc. Mais il y a vraiment une relation de partage qui est importante dans les blogs. Enfin, on lit aussi des amitiés et puis on cherche les blogs qui vont nous correspondre. Donc ça se rapproche du travail de critique, mais je pense qu'on est peut-être plus proche du lecteur que, que le critique. Ouais.
Mmh. Oui, et souvent d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la forme même des blogs, je trouve, par rapport à la critique, c'est une forme différente quand même un peu, c'est qu'il y a quelque chose du récit de la lecture même dans les blogs, comme si le blogueur racontait son aventure de lecture en fait. Oui. La critique, ça peut être ça aussi, mais c'est peut-être un peu différent. C'est plus analytique, peut-être. Il y a plus peut-être d'empathie dans le blog. Encore que quand je dis ça, au fur et à mesure que je le dis, je me dis oui, en fait, il y a plein d'exceptions. Mais peut-être ça.
Il y a beaucoup de styles différents dans les blogs. C'est ça aussi qui est génial. Et de l'humour à l'analytique, excusez-moi, c'est très différent. Moi, je sais que j'essaie toujours d'avoir quand même ce regard analytique, d'essayer de déterminer un peu, moi, ce que j'en ai ressorti, mais ce qui parle, le sens qu'il y a aussi. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être un regard trop littéraire, mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui me tient beaucoup à cœur.
C'est très bien d'avoir un regard littéraire. Parce que ça, c'est quelque chose qui me gêne, moi, par rapport à la littérature jeunesse. J'avais participé il n'y a pas très longtemps à un colloque à la Sorbonne, justement, sur la littérature jeunesse. Il y avait un certain nombre d'écrivains jeunesse qui étaient là. Et il y en avait quelques-uns qui, à la fois, c'était très contradictoire leur discours, parce qu'à la fois, ils se plaignaient de ne pas être reconnus comme des auteurs à part entière, d'être une espèce de sous-auteurs, que la littérature jeunesse serait méprisée, pas assez regardée, pas assez critiquée par les journaux et tout, ce qui n'est pas faux, ça. Et en même temps, à un moment, il y a quelqu'un qui disait, oui, mais enfin, nous, en jeunesse, on n'est pas des écrivains, on est des auteurs. Et là, moi, je suis tombé de ma chaise. Parce qu'il me semble que, oui, moi je prends la littérature jeunesse pour d'abord de la littérature. Donc en fait, je cherche des écrivains. Je pense, et je suis tout à fait, moi je vous rejoins, c'est quand on parle des livres jeunesse, il faut parler de littérature, il faut faire des analyses littéraires. C'est ça qui est, enfin, c'est ça qui me paraît, et c'est ça qu'il faut, à mon sens, faut défendre, c'est ce que vous faites, vous.
Oui, moi je suis un blog de Clémentine Beauvais, du coup, qui est donc une auteure jeunesse qui écrit vraiment bien et qui a aussi un blog donc, où elle parle notamment de littérature jeunesse. Et elle avait écrit aussi une tribune pour la charte des auteurs jeunesse qui avait été publiée sur Actualité, et où elle parlait donc de ce problème de l'auteur jeunesse. Et c'était très intéressant parce qu'elle montrait à la fois qu'on cherche toujours à mettre la littérature jeunesse comme littérature, mais des fois, même pour n'importe qui, même moi je le fais des fois sur mon blog, on va dire... c'est de la littérature jeunesse, mais attention, c'est de la littérature, même les adultes peuvent le lire. Alors que même si c'est de la littérature pour les jeunes, ça va quand même être de la littérature, et c'est pas parce qu'elle est juste pour un public que c'est pas une vraie littérature, parce qu'elle n'est pas publiée pour les adultes. Et ça, c'est un regard que je trouve intéressant, qui remet en question aussi même ce qu'on pense. Donc,
Oui, c'est vrai. Elle a publié un très beau roman qui s'appelle Les Petites Reines, là, qui est sorti récemment, qui est vraiment un bijou. Alors peut-être on va se tourner vers Sarah, et là, alors, pas comme animatrice de la table ronde avec moi, mais comme libraire. Vous, voilà, quand le livre arrive en librairie, c'est encore une étape après, ou en parallèle, vous allez définir votre travail comment ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire passer ? Vous êtes comme nous, vous lisez les livres, vous faites votre propre idée, et vous décidez de défendre certains livres. En même temps, vous êtes dans une librairie, donc il faut essayer de défendre l'ensemble des livres, parce que ben voilà, il faut vendre les livres qui sont là. Donc comment est-ce que vous travaillez avec tout ça?
Ben déjà, il y a tout le travail en amont en fait qui est fait aussi avec le représentant de la maison d'édition qui vient nous proposer les livres à paraître. Donc il nous fait déjà un petit, il nous donne un avant-goût, on va dire, des histoires, du potentiel, de ce que lui a aimé et qui nous interpelle. Donc quand on reçoit généralement les services de presse, déjà ça fait tilt, on se dit « Ah, celui-ci, on m'en avait parlé, il avait l'air intéressant ». Donc après, il y a tous ceux qui arrivent et qu'on n'a pas eu le temps de lire en amont, mais qu'on voit sur table le jour de la sortie et et qui nous interpelle parce que déjà c'est des auteurs qu'on a l'habitude de suivre, c'est des textes qu'on trouve forts. On essaye aussi, étant donné que là on est deux au rayon ado, de se dispatcher un petit peu les lectures quand même pour essayer de lire le plus de choses possible. Et c'est un travail qui est très riche parce qu'on va pousser les livres, en fait on va les défendre, on va tout simplement, ceux qu'on n'a pas aimés, on n'en parlera pas forcément, c'est tout. Après, je pense comme un critique aussi, j'imagine qu'on ne va pas descendre un livre, on va juste éviter d'en parler. Si on l'a peu aimé, voilà, y a tellement de livres à faire valoir en fait que ça se fait assez naturellement. Et après, par le biais de blog aussi, puisqu'on a notre blog, le Facebook pour ados. Bon, là, tout va changer puisqu'on va changer de site, tout va être un petit peu reconditionné, mais on essaie de... Ouais, on essaie de mettre des petits coups de cœur et c'est toujours très gratifiant quand des parents et les ados reviennent vers nous pour nous dire qu'ils ont qu'on avait raison et qu'ils ont adoré ce livre-là et qu'ils aimeraient... Alors, ce qu'on remarque, c'est que souvent... ils cherchent à dupliquer un petit peu leur lecture, c'est-à-dire que s'ils ont aimé un livre dans une certaine veine, ils aiment trouver quelque chose un peu pareil, un peu dans le même genre. Mmh. C'est toujours les termes qui sont ressortis, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi les orienter vers quelque chose vers laquelle ils ne seraient pas allés d'eux-mêmes forcément. Et après, il y a toutes les lectures aussi, on va dire, initiées par les parents, parce que souvent, mine de rien, c'est aussi les parents qui viennent chercher les livres pour leur ado. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, le côté où il y a de nouveaux prescripteurs, les blogueurs. Finalement, c'est aussi des adolescents qui s'adressent aux adolescents. Et je pense que ça leur parle énormément, bien plus que peut-être qu'un professeur, qu'un parent. Voilà, ils sont entre pairs. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a autant de succès, tout simplement. Et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit.
Alors vous êtes en fait physiquement en face du lecteur à la différence de... Oui. De Tom ou moi, bien sûr, il y a, j'imagine, vous recevez beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, ou très peu, mais vous devez avoir aussi des habitués de la librairie que vous finissez par connaître. Donc, est-ce que vous allez jusqu'à tenir compte justement de l'histoire de cette personne? Vous savez qu'avant, elle a acheté ça, elle a acheté ça, acheté ça, comme c'est peut-être cerner une personnalité, un goût, et d'essayer justement de lui proposer des choses qui pourraient très directement lui plaire ou la concerner.
Ah bien sûr, après, c'est je pense comme un éditeur avec son auteur, c'est une relation de confiance, et c'est assez drôle parce qu'on organise beaucoup de visites de collège ou de lycée au sein de la librairie. Et il y a un jeune qui m'avait demandé, mais Amazon, alors, c'est vos ennemis? Et je lui avais dit, mais je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça. C'est juste qu'on propose quelque chose qui est différent. On propose, on va dire, un service après-vente. Et avant, on est là pour un échange humain avant tout. Et c'est vrai qu'on voit les personnes revenir, on connaît leur histoire. Enfin, il y a vraiment quelque chose de profondément humain qui s'est noué. Et même au moment de la lecture, on y pense, on se dit « Ah tiens, celui-ci, il plairait beaucoup à celle-ci ou à celui-ci. » Après, ma collègue Véronique, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là depuis 25 ans, elle a une toute autre expérience.
Qui faisait partie du jury.
Oui, tout à fait. Elle a une toute autre expérience, forcément. Elle agit un petit peu comme un mentor, mais on a un peu le même raisonnement. Enfin, et on a aussi nos habitués à chacune, puisqu'on a des goûts aussi différents, même si finalement, sur les livres qu'on a lus et qu'on a aimés, on est toujours assez unanime. La passe-miroir, les mystères de Larry Spem, toutes les deux, on s'est regardées en disant oui. Enfin, c'est une évidence.
Alors, justement, il y a quelqu'un qui vient dans la librairie et puis qui vous dit « J'ai entendu parler des mystères de Larry Spem, là j'ai vu, c'est vraiment bien. » Qu'est-ce que vous lui dites ?
Vous me prenez au dépourvu. Eh bien, je pense que je ne pourrais pas m'empêcher de faire une petite comparaison avec la passe miroir, même si c'est complètement différent. Hein, finalement, on a très peu d'éléments spatio-temporels dans la passe miroir. Là, c'est un peu plus ciblé quand même. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'atmosphère très originale. Il y a un vocabulaire aussi qui fait qu'on est tout de suite happé dans une histoire. Et donc, je lui dis, foncez, tête baissée, il faut être un petit peu passionné partout, je pense, pour aimer ça. Il faut aimer une langue nouvelle, une histoire originale. Il faut aimer l'histoire aussi avec un grand H. Et je pense que ça fait plaisir aussi de se retrouver à cette époque-là et d'imaginer que ça aurait pu se passer autrement. C'est-à-dire que les riches deviennent un petit peu les pestiférés de la ville et qui vont décider de se venger. Et je trouve que cette phrase, le sang jamais n'oublie, elle est très forte, quoi. Elle revient comme une petite chanson en tête. Enfin, c'est assez entêtant, ouais. Donc,
oui, avec une petite, forcément, une référence au vampirisme aussi. Enfin, on pense forcément à ça. J'admire toutes les deux parce que vous êtes quand même des nouveaux auteurs, votre aisance, la qualité de vos propos. Donc, je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau et vous remercier.